Ce sont des journées importantes pour le Canada, selon le gouvernement du Canada, tout au moins, parce qu'il y aura une décision à savoir si le Canada gagne ou regagne un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On est en compétition avec l'Irlande et la Norvège. Et pour essayer de comprendre tout cela, parce que ça semble bien loin de nous, je vais aller rejoindre l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon. Mon ami est là. Allô, Lawrence.
Bonjour, Rock.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un cours ONU 101, siège de sécurité à l'ONU 101? Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Pourquoi on est en compétition? On a-tu des chances de gagner? Qui est-ce qui vote? Puis pourquoi c'est important?
Bon, on va essayer de rendre ça le plus simple possible, Rock. Au fait, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un peu comme si c'était l'exécutif d'une compagnie ou d'un conseil exécutif de la ville de Gatineau, par exemple.
Okay.
Eux, la première responsabilité de ce comité ou cet organe exécutif, c'est la responsabilité principale, c'est surtout le maintien de la paix puis de la sécurité internationale, selon et en vertu de la Charte des Nations Unies. Alors, il y a des membres permanents et il y a des membres non permanents. Qui est qualifié pour être un membre permanent? Bien, tu auras deviné qu'après la guerre, les Américains, l'Union soviétique dans le temps, quoique ça a évolué, et lorsque la Russie est apparue après la chute du mur de Berlin, la Russie a été reconduite dans cette fonction-là.
Oui.
Puis après ça, tu as la Grande-Bretagne, la France. Et puis, le dernier, c'est non le moins de la Chine. Initialement, tout le monde avait été admis, à l'exception de la Chine, là, simplement pour donner un peu une réflexion, c'est ceux qui avaient possession ou qui avaient en leur possession l'arme nucléaire après la guerre.
Okay.
Là, maintenant, ça a l'air évolué. Alors ça va pour les membres permanents et qui, soit dit en passant, ont un veto. Alors souvent, quand il y a un conflit mondial, on entend dans les médias, le Conseil de sécurité a été convoqué pour regarder telle résolution, etc. Bien, généralement, c'est et s'il y a un désaccord, c'est parce qu'il y a un des cinq membres permanents qui a probablement exercé son droit de veto à une résolution. Donc, ça oblige de la grande diplomatie, pour ainsi dire. Les membres non permanents sont là pour un siège d'une durée, je pense, de 2, sinon 3 ans. c'est des membres qui sont en présence en fonction, évidemment, du regroupement géographique. Alors, le Canada, j'explique, le Canada fait partie de ce qu'on considère le groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Donc, les autres États, outre le groupe des Européens, là,
ouais,
c'est le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, tu comprends qu'on n'est vraiment pas avantagé par cette situation-là, parce qu'on n'est pas avec la gang d'Europe, puis on est à côté des États-Unis, puis les Européens, pendant longtemps, ont toujours dit « bon, mais le Canada est à côté des États-Unis, les Américains peuvent les représenter
ouais ».
Alors, il y a toujours eu cette confusion-là. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui se déroule le vote qui va permettre de choisir deux des trois personnes qui sont en lice. Alors, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, la Norvège, l'Irlande et le Canada vont se poser pour voir qui des trois seront choisis comme les deux membres permanents dans les années à venir.
Pas permanent, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a juste un siège, juste pour comprendre, là, mis à part des sièges permanents, est-ce qu'il y a juste un siège non permanent?
Ben, il y a cinq membres. Il y en a plus que ça, Rock.
Là. OK.
Il y a généralement, je pense, je peux me tromper là, mais je pense que c'est à peu près une quinzaine de pays. Là, on va faire le tour. Tu as cinq États membres qui viennent des États d'Afrique. Et du groupe des États d'Asie-Pacifique. En général, il y en a trois de l'Afrique, puis il y en a deux d'Asie-Pacifique.
Ouais.
Après ça, tu as l'Europe orientale Et puis, tu as deux États membres du groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Puis ensuite de ça, deux États membres des États d'Europe occidentale
dont
et les autres États, dont nous.
Ouais. Et ça veut dire que, dans le fond, il y a deux postes, il y a deux sièges de disponibles dans notre gang à nous autres, puis on est trois pour se chicaner deux postes.
Oui, et puis, je vais dire, ce qui m'a toujours irrité, puis dans cette chose-là, c'est que on n'a pas pu, entre nous, parce que les autres secteurs ou les autres, appelons ça les autres régions de la planète, s'entendre entre eux pour dire, bon, bien, de la période, je ne sais pas moi, 2022 à 2024, bien, ça va être tel pays ou tel autre pays dans notre groupe. Alors, nous, on ne s'entend jamais avec les Européens. Les Européens veulent toujours, toujours avoir les deux sièges. C'est extrêmement difficile pour le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie d'essayer de se tailler une place à travers ça. Donc,
d'accord,
c'est une campagne que Marc-André Blanchard, qui est notre diplomate en chef aux Nations Unies, mène depuis un bon moment, depuis que M. Trudeau a choisi de poser la candidature du Canada en 2015. On se rappellera dans sa fameuse formule de « Le Canada is back », là,
oui,
qu'il a aussi ajouté parmi ses objectifs politiques, un siège au Conseil des Nations Unies. Alors, Marc-André Blanchard, qui est notre ambassadeur permanent aux Nations Unies, a travaillé très fort, justement, pour mousser la candidature du Canada. Et je rajouterai que, Rock, une dernière constatation, c'est que ce n'est pas un vote ouvert, c'est un vote secret. Alors, même si le pays va dire « oui, j'appuie la candidature du Canada », cela, en principe, peut changer parce que le représentant permanent qui siège et qui vote va exprimer un vote secret. Alors, quand en 2012, je pense, ou 2011, lorsque on a été débouté aux Nations Unies, je peux dire que j'avais en poche 135 adhésions fermes de pays qui disaient « je vais voter pour le Canada ». À l'époque, on était opposé à l'Allemagne et au Portugal. Et finalement, au premier tour de scrutin, le Canada a reçu 118 votes, ou un peu moins. Alors, ce qui veut donc dire que c'est extrêmement périlleux cet exercice-là là, qui va se dérouler aujourd'hui. Alors, je peux comprendre Marc-André Blanchard et puis le ministre Champagne qui sont extrêmement nerveux.
OK, dernière question, Lawrence. Pourquoi c'est important pour le Canada?
Oui. Bien, c'est peut-être moins important aujourd'hui, pour être bien honnête avec toi, que ça ne l'a été. Parce que ça exprimait une certaine fierté d'être un membre non permanent ou enfin de siéger au Conseil de sécurité. Moi, je pense que aujourd'hui, le Conseil de sécurité, de même que les Nations Unies, ont besoin d'une réforme en profondeur et que avec la démographie planétaire, tu sais, deux tiers de l'humanité demeurent en Asie, etc. Et regarde la sous-représentation en Afrique au sein de ces organismes-là, les Nations Unies, de même qu'au Conseil de sécurité, tu peux te poser des questions-là. Alors, est-ce que c'est aussi important que ça l'était? C'est peut-être important au niveau d'un conflit où le Conseil de sécurité va exercer, je pense, les mesures de prudence qui s'imposent, mais au-delà de ça, c'est peut-être moins important que ça ne l'a été peut-être durant les années 60 à 2000.
Très bien. Mais merci de ces éclaircissements. Merci beaucoup, Lawrence.
OK, salut.
Bye. OK, Lawrence Cannon, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi l'ancien ambassadeur du Canada en France.